Maintenant, ça va être le tour de l'exposé de Jacques Dayan, qui est professeur de pédopsychiatrie à Rennes et qui est un des acteurs et des investigateurs majeurs du projet 13 novembre. Et donc, Jacques, tu vas nous parler du coping et mécanismes de défense. Éviter, réduire ou s'adapter au stress. Voilà, tu as donc 40 minutes.
Très bien, merci. Donc, je suis assez heureux d'avoir eu à travailler sur le coping. Donc, je vais essayer de vous présenter en 40 minutes les points essentiels concernant finalement ce qu'on pourrait appeler ces deux mécanismes d'adaptation qui relèvent de fonds théoriques différents, mais qui en même temps ont pas mal de cousinage. Alors, il y a une question de vocabulaire, je ne vais pas m'y étendre parce que elle n'est pas tout à fait résolue. Mais ce qu'il importe de penser, c'est que dans la conception générale du stress ou du trauma, on doit considérer à la fois ce qui fait pression, ce qui fait trauma, et les conséquences sur le sujet. C'est pour ça que le terme stressor, à la deuxième ligne, ou stressor en anglais et stressor en français, a été introduit pour finalement lever une ambiguïté, le stressor étant ce qui va causer le stress, ou le strain qui est la déformation. Pour trauma et traumatisme, on a aussi la même chose, c'est-à-dire qu'un événement potentiellement traumatique ne génère pas forcément un trauma. Il y a aussi une question d'intensité. Le stress est sous-entendu dans le vocabulaire courant, mais aussi dans pas mal d'articles, en général, sauf à être précisé, comme étant relativement modéré. Et on verra que les procédures de coping ont été particulièrement développées pour ce qui concerne les stress modérés, et l'ont été un peu moins, mais l'ont été quand même pour ce qui concerne les stress sévères. Et comme vous savez, ici, nous étudions le trouble de stress post-traumatique, d'où avec une dénomination tout à fait particulière, parce que cette expression un petit peu difficile, complexe et d'ailleurs discutée, intègre les deux termes, stress et post-traumatique. Alors, très vite, je vais vous présenter trois personnages clés concernant finalement la réaction et les mécanismes de défense vis-à-vis du trauma. Alors, vous avez donc un que vous connaissez un petit peu, qui a été vaguement introduit, puisque c'était quand même pas le point clé, qui était Freud. Et je rappelle que Freud a... mince, alors on a été trop loin. Toc, 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 toc. Non, j'ai beaucoup trop loin. Voilà. Donc, Freud donc, a étudié un petit peu la lamproie et aurait été un précurseur des réseaux neuronaux. Alors, voilà. Alors, l'autre grand homme, finalement, c'est Pavlov. Bon, Pavlov, qui était un spécialiste du tube digestif, hein, avant de s'intéresser au psychisme, parce que finalement, le tube digestif l'a intéressé moins que le psychisme. C'est comme ça. Donc, et qui a mis au point pas mal de notions, en particulier celle du conditionnement opérant, et ce qui nous paraît important, celle de l'extinction. L'extinction, c'est ce phénomène qui, lorsqu'on stresse, par exemple, les rats, les chiens, etc., là, prenons un rat, un rongeur, si, à chaque fois que la cloche sonne, il reçoit un coup de courant électrique, et si, dans une cage, après ces épisodes de stress sévère, on le remet avec une cloche, mais à plusieurs reprises, il n'y a plus de choc électrique, le rongeur va cesser de s'alarmer devant le son de la cloche. Ça s'appelle l'extinction. Alors on peut penser que peut-être chez l'être humain ça va se dérouler pareillement, mais déjà simplement chez le rongeur, il y a deux choses à savoir. C'est que ce mécanisme d'extinction est un second conditionnement. C'est-à-dire le conditionnement de la cloche persiste, et sur ce conditionnement de la cloche, un nouveau conditionnement consiste en l'extinction. L'extinction n'est pas l'oubli ni l'effacement du premier conditionnement. Donc il y a déjà une grande complexité. Et l'autre complexité, si je peux dire, c'est qu'on s'est aperçu... On s'est aperçu que cette extinction était contextualisée. C'est-à-dire, si vous mettez le rongeur dans un lieu tout à fait différent, eh ben, il arrive que l'extinction ne fonctionne plus. Donc ça n'a pas ce caractère universel qu'on imaginait. Donc voilà, Pavlov. Et ensuite, mon grand ami, dans le sens où je le trouve extrêmement intéressant, qui est Walter Cannon, un physiologiste, qui a pensé le terme de coping en termes de fight or flight, c'est-à-dire fuir ou combattre, qui est une autre façon de penser l'adaptation. C'est aussi évidemment lui qui a mis au point, on pourrait dire, final sur le concept d'homéostasie, qui avait été introduit par d'autres auteurs, et qui a conduit des théories, esquissé des théories du trauma, qui ont ouvert la voie aux thérapies familiales, à la cybernétique. C'est lui aussi qui a montré l'importance des catécholamines dans les réactions de stress. Alors, évidemment, ces auteurs et ces lignées vont conduire à des types de prise en charge complètement différentes, soit très biologiques, comme ici, soit plus centrées sur les psychothérapies diverses et l'hypnose. Vous voyez, ça date du XVIIe siècle, ça date du XXIe siècle. Donc, vous voyez qu'il y a quelques petites ressemblances. Ça, c'est la psychanalyse avec l'hypnose à l'armée. Vous voyez qu'il y a des mélanges extraordinaires de modalités thérapeutiques. Voilà. Ça, c'est un modèle pour expliquer le MDR qui n'a pas reçu l'amorce d'une preuve. Bon. Simplement pour dire qu'on cherche, quand ça fonctionne, à avancer des hypothèses pour expliquer le fonctionnement avec des théories qui sont dans l'air du temps. Or, en fait, il n'y a absolument aucune démonstration réelle de cette hypothèse, mais pourquoi pas. Alors, on va essayer de parler du coping et des mécanismes de défense. Alors, les mécanismes de défense ont été introduits au sein même de la psychanalyse. C'est la psychanalyse qui a introduit cette notion, avec en particulier des auteurs comme Freud, et bizarrement sa fille, Anna Freud, mais c'est une littérature qui continue de se développer, j'ai cité Sandler. Pour être simple, voire simpliste, l'élément essentiel qui va distinguer, en fait il y en a beaucoup d'autres, mais l'élément essentiel qui va distinguer le coping et le mécanisme de défense, c'est le focus des mécanismes de défense sur les processus inconscients. De façon intermédiaire avant l'introduction du coping, il y a eu le développement de l'égo-psychologie qui a introduit des modèles intermédiaires déjà entre coping et mécanismes de défense. Et puis, il y a le grand Lazarus. J'ai mis 91, mais on peut dire que les écrits Princeps sont un peu plus précoces, qui a développé, finalement, les théories de référence sur le coping. Alors, ce qui est tout à fait particulier, c'est le rôle de l'évaluation cognitive qui va être le point central, le point focal du déclenchement de l'émotion et de l'action. Et ça, c'est une hypothèse très très forte et d'ailleurs contestée. Alors, on va commencer par le coping. Là, sa définition, la plus simple, je n'en ai pas trouvé une plus simple, ce sont les efforts cognitifs et comportementaux pour maîtriser, réduire ou tolérer les demandes internes ou externes. Alors, dans cette petite phrase, il y a beaucoup de choses. D'abord, on voit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le coping. On peut maîtriser, mais pas tout le temps. Alors, on va essayer de réduire, et puis si on n'y arrive pas, on va essayer de tolérer. Donc, les objectifs deviennent de plus en plus modestes. Ensuite, il y a un point de terminologie qui est d'un très grand flou, c'est la notion de demande. Qu'est-ce que c'est qu'une demande ? Alors, dans le vocabulaire analytique, il y avait la question du conflit interne, il y avait la pulsion, enfin, il y avait des terminologies. Et comme il fallait en finir avec la psychanalyse, il y a un autre terme qui a été mis en avant, mais qui est extrêmement... flou, dirons-nous. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les demandes externes, mais il y a les demandes internes, c'est-à-dire les pressions qui viennent de l'intérieur même du sujet. Alors, j'ai mis à droite une petite affiche qui montre le mélange entre différentes notions. Donc là, vous avez des stratégies de coping pour le traumatisme, le PTSD complexe et simple, et vous avez vu qu'ils sont tous centrés sur des pratiques qui peuvent donner lieu facilement à une activité commerciale. Donc, voilà. Alors, le point clé, peut-être, dans la théorie du coping... Alors, coping, ça veut dire « to cope », c'est faire face. C'est une théorie de l'adaptation, en fait. « To cope », c'est faire face. Mais il y a quelque chose qui est central dans la théorie de Lazarus et Folkman, c'est la notion d'appraisal. Alors, mon accent est peut-être moyen. Le sens, c'est l'évaluation. C'est l'évaluation de l'événement, de la valeur de l'événement. C'est absolument central. C'est focal. Alors... Le processus d'adaptation va être lancé seulement en réponse à l'évaluation. Et les émotions résulteraient exclusivement de ce processus cognitif, même en l'absence d'éveil physiologique. Donc il vient là contredire, ou en tout cas s'opposer à une certaine théorie des émotions. Alors vous voyez ici trois types de coping. Oui, migrate, oui, hibernate, et oui, bottom up, ce qui veut dire à peu près on se tient à carreau. Alors, voilà un petit peu le schéma du coping selon Lazarus, Folkman et divers. L'idée centrale, c'est l'évaluation. Mince. Alors, cette évaluation, elle se fait en deux étapes. Une étape primaire, où la personne, le sujet, regarde si l'événement... Enfin, regarde, c'est moi qui dis regarde, parce que je ne sais pas quel terme employer... Si l'événement qui vient de se produire menace son bien-être. Deuxièmement, il regarde s'il menace ses buts. Le sujet ne va intervenir que s'il menace son bien-être et qu'il n'est pas congruent à ses buts. Ensuite, le deuxième temps d'évaluation va consister à regarder les ressources qu'il a à sa disposition et prendre des options. Dans la théorie de Lazarus, ce temps d'évaluation n'est absolument pas précisé. On ne sait pas s'il est l'ordre de la seconde, de la minute, ou s'il dure trois jours. C'est absolument pas précisé. C'est pas un point du tout développé. Et alors, qui va donner lieu à des actions d'adaptation, parce que coping, ça veut dire adaptation, qui vont se diviser selon... Lazarus, en deux types d'actions. Des actions directes, c'est-à-dire qui vont tenter de résoudre le problème. Par exemple, s'il y a un tireur, je tire dedans, pour parler des choses d'actualité. Réévaluation cognitive de la situation. Par exemple, s'il y a un tireur, je me dis qu'à moi, il ne m'en voudra pas et je continue à marcher. Je vais aller très bien pendant deux minutes, je pense, avec ce type de coping. Donc, ce qui est aussi essentiel... c'est que c'est uniquement, et là vous voyez quand même un point qui a été attaqué de nombreuses fois dans la théorie de Lazarus, c'est après cette évaluation que des émotions spécifiques et une excitation physiologique va se produire. C'est-à-dire le temps d'évaluation serait vraiment premier, et il ne précise pas exactement comment elle se produit, quelles sont les structures cérébrales, comment ça se passe, etc. etc. Mais ce n'est pas un point qui l'intéresse essentiellement. Alors ça a donné lieu à des schémas, c'est exactement la même chose mais sous une autre forme. Il y aurait donc un environnement avec ses stresseurs, il y aurait un filtre perceptif mais dont on ne sait pas comment il agit, il y aurait la première évaluation qui finalement au terme de laquelle on aurait le fait que l'événement soit positif, dangereux ou ne le concerne pas. S'il est dangereux, il y a une deuxième évaluation où les ressources disponibles vont être évaluées. Elles sont suffisantes, il n'y a pas de stress. Elles sont insuffisantes, il y a stress. Et il y a stress, alors là, coping, et hop, soit notre brillant sujet cope en essayant de résoudre le problème, soit en essayant de modérer, d'abolir ou de transformer ses émotions. Et ceci étant, après, une dernière réévaluation a lieu qui permet de juger de la validité. Voilà le schéma très général de théories cognitives telles qu'elles ont été mises au point dans les années 80, avec, à l'époque, de ce qu'on appelait la révolution cognitive, c'est-à-dire l'idée qu'il existait un nouveau mode d'approche différent de la psychologie expérimentale et surtout de la psychanalyse qui permettait de comprendre comment le sujet fait face à des événements douloureux, etc. Alors, ça donnait lieu à une diffusion assez facile, en particulier parce qu'il s'agit d'actions conscientes, délibérées, et puis finalement pas trop désagréables. Et donc, vous voyez ici un certain nombre d'activités qui sont censées, par exemple, guérir le PTSD. On va voir que c'est douteux. C'est douteux. Par contre, dans une perspective plus scientifique, on voit la complexité des stratégies de coping. Ça peut être l'évitement volontaire, ça peut être la minimisation ou banalisation, ça peut être la substitution d'un problème à un autre, ça peut être le soutien social, ça peut être un remplacement cognitif, ça peut être une recherche d'information, des engagements spirituels ou politiques, le rejet de responsabilité sur autrui et le renversement, c'est-à-dire de la valeur de la chose. Et là, on voit que dans ces mécanismes de coping, il y en a une infinité de mécanismes de coping. C'est pour ça qu'il est assez difficile d'exposer de façon exhaustive la question, parce que j'aurais pu, j'ai regardé, passer 40 minutes à vous montrer des listes différentes. C'est pas, je pense, ce que vous aurez souhaité, et moi non plus. Alors, on voit que pour des troubles plus importants, on a la question de la temporalité qui peut être en jeu, et on voit aussi celle de la sensorialité. Or, en même temps, ces deux questions ne sont pas incluses dans le corpus fondateur des théories du coping. Mais par contre, elles sont utilisées parce qu'il y a un grand pragmatisme de ceux qui cherchent donc des méthodes pour faire face à des stress. Et comme vous avez vu, on a parlé de stress, on n'a pas parlé de trauma. Le sujet ici de ces quelques jours est en grande partie centré sur le traumatisme, et ici on parle de stress. Et se pose effectivement la question d'intensité, parce que le sujet ordinaire, dans sa vie ordinaire, fait face sans cesse à des stress. Il fait face sans cesse à des stress, il développe des mécanismes adaptatifs variés, et en général il ne va pas trop mal. Donc à partir de quand on désignera un événement comme traumatique? Alors, ici, on peut juste définir un événement comme stressant. Alors, pour vous montrer de façon un peu plus étendue ce que peut être un mécanisme de coping, vous avez ici un mur, comme un mur des fusillés, où les gens tirent. En fait, ils tirent avec des carabines. En fait, c'est Niki de Saint-Phalle. Alors, Niki de Saint-Phalle, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une grande artiste plasticienne, un grand peintre. Là, c'est les œuvres dégradées, mais volontairement. Et là, c'est Niki de Saint-Phalle avec sa carabine. Et là, vous voyez la même demoiselle. Alors, l'histoire de Niki de Saint-Phalle, c'est qu'elle a été violée par son père à de nombreuses reprises. Son père, qui était un grand moraliste, hein, c'est ce qui gêne absolument pas. Donc, elle écrit à sa fille des choses qui peuvent nous intéresser. Donc elle parle des émotions, qui sont un point très important de la théorie du coping. Donc elle parle honte, plaisir, angoisse et peur. Mais si vous voulez, elle parle de quelque chose dont on ose rarement parler, c'est l'ambivalence des sentiments liés aux états de stress, et même aux états traumatiques. C'est-à-dire même, à la limite, d'avoir un sentiment tel que celui-ci aggrave la honte, augmente l'angoisse, et peut aussi augmenter la peur. Donc me serrait la poitrine, donc on va voir comment elle réagit. Mon père me dit « ne bouge pas », j'obéis comme une automate. Donc on voit qu'un élément de sidération, puis elle se réveille, avec violence et coups de pied, je me dégageais de lui et courus jusqu'à l'épuisement dans le champ d'herbe coupé. Et alors ce qu'elle dit, c'est « le silence me sauvait, mais en même temps il m'isolait tragiquement du monde des adultes ». Donc on voit qu'il y a un mécanisme de coping, c'est-à-dire elle se tait, elle fait comme si de rien n'était, mais que finalement ça va venir l'isoler. Et on va retrouver quelque chose de très important dans les mécanismes de coping, c'est quelque chose qui peut être très utile à un moment donné, peut être une bombe pour le futur. C'est évident, par exemple, quand l'anxiété est calmée de façon extrêmement efficace par l'alcool. L'alcool est certainement un des meilleurs anxiolytiques qui existent, mais il a quand même quelques effets secondaires dangereux. Alors, ce qu'elle dit, s'il y a des causes plus obscures à mon silence, une enfant a-t-elle les moyens ? Bien sûr que non. Une vie entière n'y suffit pas. Et en fait, elle, elle a réussi à vivre par la création, par la créativité, par la production artistique. Donc la production artistique peut être une façon de faire avec. Faire avec, ça ne veut absolument pas dire qu'elle n'est pas aussi symptomatique, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas encore des cauchemars, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas encore sensible à des tas d'éléments qui vont réveiller des émotions pénibles, ça veut dire simplement qu'elle arrive à vivre et qu'elle arrive à tirer un certain plaisir de sa vie. Il faut bien voir que le coping est pensé à court terme, mais quand on commence à penser le coping à long terme, ça devient plus compliqué. Tout à l'heure, pendant l'exposé précédent, j'ai regardé des travaux de Solomon. Alors, je ne sais pas si c'est le même Solomon, du coup. Mais je ne crois pas, d'ailleurs. Avait été montré sur la guerre du Liban que ceux qui étaient au combat, la population au combat, avait eu son taux de stress post-traumatique qui avait décru assez bien les premières années dans l'ensemble de la population, et avec un rebond massif une vingtaine d'années après. C'est-à-dire que ce qui permet de faire face à un moment donné n'est peut-être pas ce qui permettra de faire face toute sa vie. Donc il y a un élément de temporalité qui est extrêmement important dans les mécanismes de coping. Alors, dans le modèle cognitif du stress post-traumatique, il était montré que les facteurs cognitifs ont un impact critique sur l'apparition de la chronicité, puisque ça va très bien avec le modèle où l'évaluation de ce qui se passe va jouer un rôle majeur dans ce qui va se dérouler après. Alors l'exemple qui est donné, c'est la perception d'un événement stressant en tant que menace peut être au moins aussi importante que la gravité du traumatisme. Alors c'est là qu'il y a peut-être des questions de seuil. Par exemple, si vous avez un revolver sur la tempe, c'est très très difficile de ne pas concevoir qu'il s'agit d'une menace. Donc, le rôle du psychisme quant à l'interprétation est relativement réduit. Mais il n'est pas nul, il n'est pas nul. Justement, on voit des gens qui se comportent très bizarrement dans les situations de stress extrême. Et on voit que des mécanismes de coping, tels l'évitement cognitif, les tentatives de suppression volontaire des pensées, seraient aussi des facteurs de chronicisation. Mais par exemple, si on prend les tentatives de suppression volontaire des pensées, il faut faire très attention qu'il s'agit de tentatives volontaires. Parce que les sujets pour qui, on verra ça dans les mécanismes de défense, suppriment en quelque sorte des pensées par les mécanismes de défense, eux vont mieux. Donc il y a une très grande différence entre ce qui est volontaire, ce qui est spontané. Et il y a un chemin entre les deux qui est assez complexe et qui est un des sujets d'études à l'INSERM en particulier. Alors, dans les modèles cognitifs du trouble de stress post-traumatique, on voit que les évaluations subjectives, c'est-à-dire l'appraisal, sont extrêmement importantes. Alors, les perceptions de perte de menace, de préjudice, de contrôle, expliquent des résultats divergents sur un risque donné. Alors, ces perceptions peuvent expliquer... Ces perceptions, c'est aussi des évaluations. C'est l'appraisal de Lazarus. Peuvent expliquer pourquoi une personne développe un trouble de stress post-traumatique après des événements apparemment non catastrophiques. L'exemple donné, c'est le divorce. Bon, c'est un événement stressant, mais pas catastrophique. Tandis que d'autres ne développent jamais un trouble après un traumatisme apparemment horrible, par exemple capture et torture. Donc il y a l'évaluation subjective. On verra qu'il n'y a pas que ça. On verra peut-être, si on a le temps, qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, on retrouve l'élément d'évaluation qui est central dans la théorie du coping, parce qu'on pourra certainement agir dessus. Alors, les auteurs se sont rendus compte des limites du modèle initial. Donc, ils l'ont complexifié. Ils ont associé dans la présaille trois éléments, trois types de processus. La perception, les processus associatifs plus ou moins automatiques et le raisonnement. Donc, on voit que s'infile dans la notion de coping des notions de quelque chose qui est automatique ou involontaire. Scherer et son équipe, hein, il n'est pas tout seul, mince, Scherer, lui, a distingué dans la présage, dans l'évaluation, trois types de processus. Des processus innés, des processus appris mais basés sur des schémas, c'est-à-dire des algorithmes, qui sont donc à la limite de ce qui est conscient ou pas conscient, et des processus de raisonnement, donc tout à fait délibérés, conceptuels. Donc on voit que l'évaluation implique plusieurs processus qui n'ont pas la même temporalité et qui n'ont pas le même degré de conscience ou de volontarisme. Alors effectivement, on avait beaucoup de travaux avant qui mettaient en cause l'idée que l'évaluation d'une situation ou qu'une émotion était dictée par une évaluation cognitive. Alors là, c'était les auteurs que je vous ai cités au départ, Freud, Pavlov, Cannon, auquel il faut rajouter James, et puis ce que vous savez maintenant, et ce qu'on sait très bien par les études d'imagerie cérébrale, c'est qu'il y a des perceptions subliminales de la peur ou d'autres éléments, mais ça avait été déjà démontré sans IRM. Alors là, je vous donne quelques éléments de l'étude menée ici. Alors, c'est pas des éléments terminaux, mais bon, ça donne une petite idée. Donc c'était un petit échantillon où il y avait 120 sujets, qui est pour nous quand même un très gros échantillon. Donc on voit qu'il y a à peu près la moitié des sujets qui ont été exposés ou au Bataclan, ou au Café, au Stade de France, etc., qui ne présentent pas, lorsqu'on les a examinés, c'est-à-dire un peu plus d'un an après, qui ne présentent pas de troubles de stress post-traumatique, un quart qui présente un trouble de stress post-traumatique complet, et un quart incomplet, avec quand même pas mal d'items présents. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, on a vu plein de choses, mais ce que je voudrais vous parler, c'est un peu, pour revenir à la théorie du coping, l'évaluation initiale. Donc, on a demandé au sujet qu'est-ce qu'ils avaient ressenti. Et là, on a une question qui est développée dans la méthodologie de l'évaluation standardisée du coping. En effet, on s'aperçoit qu'on a des gros problèmes. D'abord, on a un problème du fait que très souvent, les questionnaires sont rétrospectifs. Et donc, quand vous allez très mal et qu'on vous demande comment vous étiez il y a 6 mois ou 1 an, on pense que ça va influencer comment vous allez décrire ce que vous étiez il y a 6 mois ou 1 an. Alors, on a essayé de faire sur des périodes courtes. On a même fait des copings instantanés. Comment ça se passe aujourd'hui ? Mais on s'est aperçu que si on répétait 30 fois si ça se passe aujourd'hui, il y avait un effet lié à la répétition et que finalement, ça perdait à nouveau sa validité. Donc, on a quand même quelques problèmes dans la méthodologie d'évaluation standardisée, pas pour un sujet donné, mais pour une population du coping. On a aussi un autre problème, c'est que lorsqu'on laisse parler les gens spontanément, ils ne disent pas la même chose que lorsqu'il y a des questions fermées. Et c'est là qu'on a l'individualité extraordinaire du coping. On en a parlé ce matin. Mais en fait, on pourrait dire qu'il y a, au-delà des apparences globales, quelque chose d'unique dans la façon dont chacun procède au coping. Et on s'est aperçu donc que, pour avoir une idée assez juste du coping, il était intéressant d'associer des questionnaires standardisés avec l'étude des narrations spontanées. Il y a plusieurs articles qui sont sortis là-dessus, et c'est ce qu'on fait aussi ici dans la recherche. Alors là, vous voyez, là, on demandait aux gens, quand vous y pensez, donc à ces événements, est-ce que ce sont des choses que vous avez vécues, des images médiatiques, etc. Ils répondaient un tas de choses différentes. Mais quand on leur demandait quelle réaction physique vous aviez, ils vous donnaient toute une liste de réactions physiques. Et ce que dit Lazarus, c'est que finalement, le stress va éliciter des émotions, et ce qu'il prétend, parce que c'est complètement théorique, sauf dans certaines circonstances, qu'en connaissant le type d'évaluation, on peut deviner quel type d'émotion va être suscité. Ça va être la peur, la colère, etc., etc. Il prétend ça. Or, en fait, il arrive à le démontrer que dans très peu de situations. On n'arrive pas à deviner simplement en ayant l'évaluation et le contexte. Et là, donc, il y a quand même l'idée que ces émotions, et on va revenir sur une discussion si on a le temps, c'est-à-dire le rapport entre émotion et cognition. Parce que finalement, dans le coping, la question clé, c'est le rapport entre émotion et cognition. C'est-à-dire, est-ce que l'évaluation conduit à l'émotion, mais est-ce que l'émotion ne peut pas conduire à la cognition ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de savoir. D'autre part, l'émotion va ensuite biaiser la cognition. Donc il y a des rapports extrêmement complexes entre les deux. Alors, là, nous avons mis en évidence que les réactions initiales, et c'est absolument ce que dit Lazarus, les réactions initiales pendant, par exemple, l'attaque du Bataclan, va jouer un rôle fondamental pour déterminer, c'est un des facteurs les plus corrélés, donc des émotions, des réactions émotionnelles ou physiques très importantes, sont un des facteurs les plus corrélés à l'apparition d'un état de stress post-traumatique. Donc, l'évaluation primaire, et même l'évaluation secondaire, mais au moment de l'événement, vont jouer un rôle très très important, parce que finalement les mécanismes de coping vont se mettre en place presque après l'événement. Même si, en fait, il peut avoir des périodes sans symptômes. Là, on a vu ce qu'on sait, c'est-à-dire que si on admet que la dissociation, c'est un mécanisme de coping, et là, c'est discuté parce qu'on les trouve plus dans les mécanismes de défense, c'est une particularité, la dissociation. C'est que c'est à la fois un symptôme, un trouble, un mécanisme de coping, un mécanisme de défense. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le coping, c'est-à-dire que, par exemple, boire régulièrement de l'alcool, c'est un mécanisme de coping. Mais c'est aussi un symptôme et ça va devenir un trouble. L'évitement dans le trouble de stress post-traumatique, c'est un mécanisme de coping. Et à un certain stade, ça devient un symptôme. Donc on a toujours cette intrication qu'on a voulu, en rendant la psychiatrie médicale, se départir. C'est-à-dire, il faut savoir, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est un symptôme ou c'est pas un symptôme? Eh ben non, on ne sait pas. Donc là, vous voyez, dans ce schéma, vous avez là les gens qui n'ont pas de stress post-traumatique. Il n'y a quasiment pas de dissociation. Sinon, la dissociation ordinaire, celle qui fait que, par exemple, vous oubliez vos clés quand vous venez à la conférence, donc qui atteint quand même une majorité de la population, qui peut avoir quelques écarts divers. Ça, c'est le stress post-traumatique incomplet, et là, complet. Donc on voit finalement que la dissociation, si on le prend comme mécanisme de défense ou de coping, est plus élevée quand le sujet est malade. Et on va voir quelque chose là de tout à fait étonnant, mais en fait étonnant apparemment. Alors là, ce sont les réactions physiques. Il y a un de nos collègues qui a fait une très belle étude et qui a montré que finalement il existait plusieurs couples de réactions physiques qui se produisaient, par exemple palpitations, sueur, tremblement, paresthésie, souffle coupé, étranglement, et qui étaient d'excellents prédicteurs du trouble de stress post-traumatique. Et dans la théorie de Lazarus, ces émotions sont déjà le fait d'un certain type d'évaluation. Mais vouloir faire ces évaluations conscientes apparaît une gageure. Alors, simplement, c'est pour ici parler des seuils. C'est-à-dire entre le stress, par exemple, d'arriver en retard pour un examen, qui est quand même pas rien, et ce qui se passe dans les traumas sévères, il y a une question. Il y a une question, et on le reverra même, par exemple, dans le Bataclan. On le verra à chaque fois. Quand on dit, par exemple, quelqu'un était au Bataclan, en fait, s'il y a 90 personnes qu'on examine, il y a 90 situations. À chaque fois, c'est différent. Ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appréhendé, ce qu'ils ont vécu, le risque, le bruit, les morts, le sang, à chaque fois, c'est différent. Donc, quand on fait une étude générale, on est obligé de dire qu'ils étaient au Bataclan. Et une étude encore plus générale, ceux qui ont subi des actes terroristes. Mais en fait, on a des histoires individuelles, et il semble que ces histoires individuelles, qui ne sont pas seulement les antécédents, mais la situation dans laquelle les gens étaient, vont induire des mécanismes de coping différents. Voilà, vous avez une petite image hein, où le gars dit bah, « c'est super, tu reviens sans une égratignure », donc c'est le stress post-traumatique, si vous voulez. Et là, c'est pour montrer l'atteinte physique qui peut être majeure, et la question, c'est comment elle s'intègre à l'évaluation cognitive. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir quand même un certain nombre de troubles. Je vous laisse lire, parce qu'on en a au moins pour 10 minutes, si je les lis un par un. Mais simplement pour montrer que le corps est atteint. C'est-à-dire que c'est l'individu dans son entier, c'est qui est concerné, et pas une dichotomie entre son corps et son esprit. Alors, là, c'est aussi pour dire... quand même, faisons attention à l'intensité et à la gravité. Là, vous avez des mécanismes de coping sympathiques, quoi. Expérimentez des choses, cuisinez sympathiquement, faites des petites marches, buvez du chocolat chaud. Mais si vous voulez, il y a des éléments traumatiques tels qu'on se demande, si on parle de la même chose. Il faut certainement réfléchir à cette espèce de généralisation qui intègre la notion de stress à celle de trauma. Alors, là, c'est le paradoxe apparent, c'est-à-dire, on regarde les mécanismes de coping, puisqu'on a, bien que la méthodologie soit discutable, il n'y en a pas d'autres. Donc, on a soumis la population exposée à des questionnaires de coping. Et là, il y a un certain nombre de façons de faire face. Mais ce qu'on voit, évidemment, c'est que plus les gens vont mal, là, ils vont mal, très mal, ils ont un PTSD complet, là, incomplet, là, ils n'en ont pas. Bah, plus ils vont mal, plus ils essayent de faire face. C'est-à-dire que, donc, plus ils vont mal, plus ils utilisent des mécanismes de défense. Alors, il faudrait faire attention de ne pas raisonner de travers. Par exemple, de ne pas dire, le déni, c'est un très mauvais exemple. Bon, mais tant pis. Bon, là, on voit que les sujets... Parce que le déni, on le considère comme une chose négative. Donc, on n'a pas de souci. On dit, bah, plus ils vont mal, plus ils sont dans le déni. Bon, d'accord. Alors là, le blâme, c'est compliqué, parce que ça peut être l'auto-blâme ou le blâme des autres. Mais plus ils vont mal, plus ils ont recours au blâme, que ce soit self ou de l'autre. Et là, utilisation de substances, plus ils vont mal, eh ben, plus ils utilisent des substances. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude, alors je n'ai pas lu d'autres, qui ont montré une chose incroyable, c'est l'arrêt de l'héroïne. Vous savez que l'héroïne entraîne une dépendance extrêmement importante. Et il y a des études, alors qualitatives, donc il faudrait certainement... Enfin, qualitatives, des études quantitatives avec une méthodologie faible, qui auraient montré que la capacité de s'arrêter des vétérans du Vietnam était liée de façon très forte à l'extinction du PTSD. Or, si vous voulez, dans la plupart des pathologies, c'est extrêmement difficile de cesser l'addiction à l'héroïne. Et que là, on aurait une forme d'arrêt particulier, que donc, ça serait vraiment une automédication. Alors, là, c'est la suppression de pensée, c'est la même chose. Hein. Suppression de pensée volontaire, hein. Comme méthode, par le sujet lui-même. Eh bien, on voit quoi? C'est la méthode de l'ours blanc, hein, c'est ce qu'a dit le professeur Fossati, c'est-à-dire, je vais vous demander pendant une minute de ne pas penser à un ours blanc. Donc, c'est mal parti, parce que vous avez probablement pensé à un ours blanc. Donc... eh bien, on a montré que les méthodes de suppression de pensée, volontaires, augmentaient aussi avec le trouble. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les sujets essayent d'aller mieux. Donc, ils ont recours à des mécanismes de coping. Mais en fait, la majorité des gens qui ont recours aux mécanismes de coping qu'on désigne ici, ils vont mal. Donc, c'est finalement, quand vous allez mieux, que vous n'avez plus besoin d'utiliser un certain nombre de mécanismes de coping. Les copings sont faits pour aller mieux, mais quand vous l'utilisez, c'est que c'est pas encore ça. D'accord ? Bon. Alors, ensuite, on continue. Combien de temps ? 5 minutes. Alors là, ça va défiler. Hein. Bon, traumatisme chronique ou répété de l'enfance. Donc, voilà. Alors, là, on n'est pas dans la même chose. Alors, je n'ai pas voulu illustrer... les choses sordides, je vous ai juste montré Saturne qui mange un de ses enfants pour essayer d'illustrer un petit peu la gravité des choses dont on parle. Ce n'est pas la personne qui a cassé son talon en allant à une grande soirée, si vous voulez. Ce n'est pas dans la même chose, quoi. Donc, et d'ailleurs, le premier auteur, c'est Terre, enfin Terre, c'est son nom, hein, a décrit ce qu'on appelle les traumatismes de type 2, longue durée, répétitif, cumulatif, infligé volontairement par un être humain. Alors ça se passe très très mal. C'est aussi ce qu'on a appelé la trahison, parce que le sujet est trahi par ceux qui doivent le protéger dans sa vie. Et ça entraîne un nombre de troubles incroyables, mais qui atteignent la personnalité. Donc il y a quelque chose de particulier. Ça atteint la personnalité, et ça atteint aussi le corps. Il y a énormément de dérèglements physiques, et qui sont de tous les styles. Ça va de la conversion aux troubles immunitaires documentés. Donc on a la conversion qui est a priori un phénomène psychique, bien qu'on ait vu quelques études intéressantes en IRM sur le phénomène de conversion, jusqu'aux troubles physiques documentés. Alors vous voyez à droite, je ne sais pas si vous avez le temps, ils vont très mal. Hein ? Je ne peux pas dire plus en 5 minutes, ils vont très très mal. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une théorie, c'est celle du développement hétérotopique post-traumatique. Ça peut induire un tas de troubles, mais presque tous ces troubles peuvent être pensés aussi en termes de mécanismes de défense, quasiment tous. Et là, c'est une énigme, et il n'y a certainement pas assez de travaux là-dessus. Alors, ce que disait Freud, c'est que finalement, en parlant des stress ordinaires, évidemment, ce n'est pas le mot qu'il employait, ben, ça va très bien. L'être normal réussit à faire disparaître l'affect pénible, il prend place à côté d'autres incidents et se trouve corrigé par d'autres représentations. Bon, si vous n'avez pas compris cette phase abstraite, il nous donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. Après un accident, le souvenir du sauvetage, la notion de la sécurité actuelle viennent se rattacher au souvenir du danger couru. Ou en cas d'humiliation, une rectification des faits, une rectification imaginaire évidemment, par un sentiment personnel de dignité vont permettre de faire face. Là, par exemple, vous avez un petit dessin à droite. Vous voyez celle qui mène la discussion est une vache. Et elle lui dit, bien sûr, vous êtes une vache, mais aussi, vous êtes un spécialiste en produits laitiers. Donc, c'est un petit peu le... Alors, par contre, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça ne correspond pas au schéma du coping. Qu'est-ce qui se passe chez le nouveau-né et le nourrisson? Alors, on voit que, en instance de rupture de l'homéostasie, l'éveil s'accroît, il pleure. Puis il y a un système gradué de protestation. Puis en général, la mère répond aux demandes physiologiques et non physiologiques. Bon, là, il pleure. Là, elle le nourrit. Là, elle le câline. C'est les demandes non physiologiques. Le coping chez le nouveau-né nourrisson consiste à agir sur autrui pour le faire agir sur soi. C'est une modalité extrêmement particulière et qui restera tout au long de la vie. Et là, on le voit. Alors là, vous voyez... Le bébé, le député japonais qui a fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire, vous savez qu'ils sont obligés de s'exprimer en public. Donc ça donne lieu à des scènes assez terribles. Là, vous voyez le bébé, vous voyez le soldat du Vietnam qui est réconforté, exactement comme la mère. Là, vous voyez l'alimentation au sein, et puis deux dérivés à l'âge adulte. D'accord ? Donc, les mécanismes de défense ont pour deux fonctions. Se prémunir du retour du fait traumatique, c'est l'hypervigilance ou l'évitement phobique, et de la représentation traumatique ou de ses effets. Alors, 5 minutes, j'ai pris trop de temps pour l'aller. Donc, les mécanismes de défense, c'est très complexe, c'est dynamique, il y a une temporalité, ça peut être conscient ou inconscient. Hop. 5 minutes, j'ai pas le temps. Donc, les mécanismes de défense, certains sont dits matures, qui contribueraient à la santé physique et psychique et le fait de personnes en bonne santé. Et d'autres immatures, qui contribueraient à la pathologie ou le fait de personnes présentant des troubles. C'est faux. C'est faux parce qu'on s'aperçoit que quel que soit le mécanisme, ce qui semble très important, c'est que les modes d'activation légère tendent à être fonctionnels, de n'importe quel type de mécanisme, même les plus pathologiques. Et que dans les situations extrêmes et sévères, c'est ce que vous voyez en bas à droite, les mécanismes dits pathologiques, en fait, peuvent être les plus efficaces, comme le déni, le clivage, etc. Et là, simplement, c'est pour montrer qu'il existe une sorte de relation possible entre les mécanismes de... Oh mince. Les mécanismes de défense et les mécanismes de clivage. Avec, toutefois, des choses qui ne sont pas équivalentes, comme le déni, le clivage ou la dissociation, vous voyez en rouge. Donc, on pourrait se demander s'il n'y a pas quelque chose entre l'inconscient, le préconscient, le conscient, dans les mécanismes qui permettent d'aller mieux. Alors, je vous ai dit deux types de coping, se centrer sur le problème et le coping évitant. Évitant, c'est soit je ne veux rien savoir, soit je ne m'en occupe pas, je me résigne, soit je vais boire ou créer une œuvre d'art. Enfin, vous voyez que ce n'est quand même pas équivalent socialement. Soit décharge émotionnelle, soit je vais frapper mon voisin, soit je vais tomber amoureux de ma voisine. Enfin, vous voyez, le problème, c'est que c'est des termes génériques et derrière, il y a des pratiques différentes. Donc, alors, les défenses immatures sont corrélées au coping, positivement, et négativement au coping centré sur le problème. Donc, bon. Après, c'est fini, on n'a plus de corrélation. Alors, les mécanismes de haut niveau, voilà ce qui se passe en général. Vous avez un stress modéré à sévère, mais qui ne dépasse pas un certain état. Donc, selon les théories analytiques, si le refoulement s'opère suffisamment, Les résidus de l'excitation peuvent être liquidés par les mécanismes soit de haut développement, l'intellectualisation, la rationalisation, la sublimation, soit intermédiaires comme le déplacement des affects, c'est ce que vous connaissez. Hein. Par exemple, la dame est très en colère, elle dispute son conjoint quand elle rentre, le conjoint frappe le chien et le chien mord le type qui d'habitude amène son courrier tranquillement. Donc ça, c'est le déplacement. Donc il y a des mécanismes intermédiaires qui vont s'opérer. On a décrit 27 mécanismes de défense, je pense que ça n'a aucun intérêt. Simplement, il est important que vous sachiez qu'une description de référence existe. Si vous voulez utiliser ce concept pour travailler, il est référé. Alors, les mécanismes de défense sollicités en cas de traumatisme intense empruntent au premier temps du développement de l'individu. On a pensé que le retrait d'attention et l'endormissement seraient le prototype de tous les retraits, et que les cris, les prototypes de toutes les défenses actives. Alors, je vous donne quelques éléments finaux, si je puis dire. Donc, une jeune femme de 17 ans, « Je croyais que tous les enfants qui faisaient des bêtises se faisaient taper comme moi. » Or, on va voir que les bêtises, c'est quand même, ça doit être assez grave, puisque vous voyez un petit peu ce qui lui est fait. Donc, une interprétation du monde qui était absolument nécessaire à l'époque, quand elle était petite fille. Il fallait que ça soit normal. Il fallait que ce qui se passe avec son parent soit normal. Donc ça lui a permis de s'adapter à l'époque. Mais qu'est-ce que ça a entraîné ultérieurement comme type de fonctionnement? Là, c'est la même. Donc elle avait des visions. Et là, ces visions sont des résultats de la dissociation. Alors ça lui permet une certaine hypervigilance parce qu'elle dit « je voyais un grand type au loin ». Alors en fait, elle le décrit ce type. J'ai pas voulu parce qu'on pourrait se reconnaître dedans. Mais je croyais que ça allait recommencer plein de trucs comme ça. Donc, c'est des éléments qui lui permettent de faire face, parce qu'il ne faut pas oublier que dans, par exemple, ce type de trauma, l'enfant peut être confronté chaque jour à son abuseur. Chaque jour. Donc, l'enfant rentre de chez elle, de l'école, son abuseur peut être là. Donc, ça va transformer toute sa vie, toute sa relation au monde, ce qu'on appelle les traumas interpersonnels. Bon, alors là, elle se méfiait de tout le monde, et je me rappelle très bien qu'elle disait avoir peur de moi. Et même encore plus du juge. Parce qu'il dit, si le juge, il me viole, comme c'est un juge, certainement, il n'aura aucun souci. Ce qui est logiquement exact, mais on s'attend quand même à autre chose de la part du juge. Bon. Donc, la petite R, qui elle, va bien. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est arrivé quand j'avais 9 ans, le 11 août. Bon, c'est pas le 11 août, mais simplement, elle se rappelle exactement quand. Elle peut se situer dans le temps. À 11 ans, c'est pas mal. Elle dit, je n'y repense plus jamais. Je n'en rêve pas, je ne fais pas de cauchemar, avant oui. Mais des fois, ça me revient. Donc, c'est ce qu'on verra dans tous les mécanismes de coping. Ce n'est pas le nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a des traces mnésiques, et c'est un élément central du trouble de stress post-traumatique, qui peuvent continuer à faire leurs effets tout au long de la vie, ou être présents comme des pièges, et posent la question de la vulnérabilité. Puisqu'on sait qu'il y a dans le trauma deux choses qui sont connues. C'est qu'un premier trauma rend vulnérable à un second trauma, et de deux façons. Pour des raisons complexes à expliquer, certaines méthodes, certains mécanismes de défense ou certains styles de coping vont rendre la personne plus vulnérable à être traumatisée. Par exemple, le déni ou la dénégation vont faire que cette personne va prendre des risques inaccoutumés puisqu'elle va être inconsciente par le même mécanisme de défense qui lui permet d'aller bien du risque qu'elle va prendre. Et d'autre part, le fait d'avoir été agressé, disons, psychobiologiquement, va la rendre aussi plus vulnérable. Et donc, il y a une multiplication de la vulnérabilité traumatique, malgré des mécanismes de coping qui peuvent être efficaces à un moment ou pas. Voilà, je remercie tout le monde et je remercie tous les membres de l'unité.
Merci Jacques pour cet exposé absolument passionnant et foisonnant, qui montre vraiment la complexité que l'on ne soupçonne pas des mécanismes de coping ou des mécanismes pour faire face, comme tu l'as dit en français. Alors on a 2-3 minutes pour des questions, très rapidement. Il y avait une question tout à l'heure à laquelle qui n'a pas pu être posée.
Je vais me permettre de remercier Jacques, déjà, tout d'abord, à nouveau, d'avoir bien voulu reprendre cet exercice au pied levé, il y a très peu de jours. Donc merci beaucoup Jacques de nous avoir fait cet exposé très très intéressant. Et alors tu nous as montré qu'il y avait différents types de coping et je voulais savoir si le type de coping d'une personne va dépendre de la personnalité, du caractère de la personne et aussi, si ce n'est pas tout à fait le cas, est-ce que le mécanisme de coping employé peut évoluer avec l'avancée? Est-ce que c'est quelque chose que l'on sait?
Si je dois répondre brièvement, je dirais oui et oui. Sinon, je peux détailler un peu. Mais effectivement, la personne va avoir une certaine propension pour lutter contre les affects les plus terribles à utiliser les moyens qu'elle utilisait avant. Le problème, c'est quand ces moyens ne sont plus suffisants. Et donc, à ce moment-là, elle va être à la recherche d'autres moyens où ces moyens vont s'imposer à elle. Donc, oui, il y a une propension, mais elle peut être efficace. Et on pense que peut-être, dans un certain type de trauma, ce qu'on appelle la résilience, terme que j'aime pas du tout, existe. Pourquoi ? Parce que les mécanismes pour faire face sont adaptés à la situation potentiellement traumatique qui s'est développée. Et ce qu'on peut penser, c'est que cette personne résiliente, ou résistante, comme on commence à dire maintenant, cette personne résistante, et encore, est résistante à un certain type de trauma, peut ne pas l'être du tout dans un autre. C'est-à-dire que la capacité de faire face, elle va varier avec le type d'exposition à laquelle est faite. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui parlent de résilience-résistance, on essaye de mettre ça, donc il n'y a pas de symptômes. Ensuite, il y a les cas post-symptomatiques, donc il y a quelques symptômes, mais il n'y a pas le trauma. Il y en a qui sont des cas avec un délai, et il y a des cas chroniques. Donc on a absolument toutes les possibilités. Et l'autre grand problème, c'est que quand le mécanisme de coping entraîne lui-même des difficultés.
Merci Jacques, c'était très très intéressant. Et ton exposé, tu l'as beaucoup centré, tu étais psychiatre, psychanalyste, et tu l'as beaucoup centré sur l'individu, sur les mécanismes de défense de l'individu, de faire face de l'individu. Tu as très très peu parlé de l'environnement autour de l'individu. Et alors, c'est un vaste sujet, hein, tu n'auras pas le temps, mais je voudrais juste que te poser une question, parce que à un moment donné, tu as souligné quelque chose de très intéressant, c'est l'importance de la réaction immédiate au trauma, à l'événement traumatique, et puis sur les symptômes qui vont se développer, de PTSD, etc. Et je voudrais ton avis sur les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique qui sont très développées en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et donc, je voudrais juste... Parce que sinon, la question que je pose, elle est immense. Hein, tu ne peux pas tout traiter, c'est quasiment un sujet. Mais sur ce point-là, quel est ton... Voilà, qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet-là ?
Je vais essayer d'avoir deux réponses. À la question que tu as posée et à celle que tu n'as pas posée. la réponse que tu n'as pas posée, c'est sur la prise en charge collective, le coping collectif. Donc, sur l'autre question, en fait, je suis un peu démuni, parce que ce qui semble, c'est que les CUMP aient un effet à court terme qui soit favorable. Il n'y a pas tellement de doutes là-dessus, globalement, même si certains sont en difficulté, même si c'est favorable. Ce que j'ignore, et peut-être le professeur Fossati sera au courant, moi j'ignore si on a pu mesurer, comment on pourrait mesurer l'effet à long terme, c'est-à-dire comment on pourrait avoir des populations contrôle. Donc je ne sais pas du tout, parce que quand même, quand ils arrivent, les CUMP... Oh, j'ai un exemple quand même. J'ai un exemple, tout petit exemple, clinique. Je suis un clinicien aussi. Donc c'est à Orly. Donc j'étais expert, grâce à Pierre Gagnepin, un expert à Orly. Il voulait un expert, parce qu'à Orly, vous savez, il y a quelqu'un qui a voulu voler le FAMAS à 3 soldats. Donc il a volé à une femme, et finalement les autres l'ont tué. Voilà, bon. Donc ce qui s'est passé, c'est que personne s'est occupé de la population. Ceux qui ont été traumatisés, c'est ceux qui vendent du pain, des macarons, des journaux, des trucs. Il y a eu plein d'états de stress post-traumatique. Or, quand cette population complètement désemparée est apparue, personne s'en est occupé. Personne. Sauf un hôtel, je sais pas, Hilton, Accor ou je sais pas quoi, qui a dit « mais venez, venez, venez ». Et donc, ils ont récupéré une petite partie, ils ont donné du chocolat chaud, ils ont dit « asseyez-vous, vous voulez des couvertures, etc. » Il y a beaucoup moins de troubles de stress post-traumatique dans cette population que dans l'autre. Donc, je ne sais pas ce que font les CUMP, mais je sais qu'immédiatement prendre en charge, sécuriser et montrer une certaine sollicitude, c'est extrêmement important. Voilà. Et l'autre question que tu n'as pas posée, je vais te donner l'exemple du Rwanda. Je suis allé au Rwanda pour essayer d'étudier le trouble de stress post-traumatique chez les Rwandais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il y avait, parce que ça s'est arrêté, il y avait des tribunaux populaires où, dans une complexité très grande, il fallait que chacun raconte ce qui lui était arrivé et on attendait des assaillants qui disent quelque chose. C'est très compliqué, parce que si les assaillants disaient rien, tout le monde savait qu'ils étaient assaillants, mais s'ils ne reconnaissaient pas, la population leur en vaudrait beaucoup. Mais s'il en disait trop, ses collègues le tueraient. Donc, ceux qui avaient commis les massacres et qui n'avaient pas été dénoncés. Donc, c'était un équilibre très compliqué. Et cette femme me racontait qu'à chaque fois que ça recommençait, ces tribunaux, parce que c'était rythmé dans l'année, elle avait des maux de tête, elle avait des crises d'angoisse, elle avait des tremblements, elle se mettait à pleurer, elle se rappelait les scènes, etc. Alors, je lui ai dit, bon, bah, finalement, ce que vous préféreriez, c'est que ça n'ait pas lieu. Elle a dit, mais vous n'avez rien compris. J'ai besoin pour vivre que ces tribunaux populaires aient lieu. C'est-à-dire qu'il existe une composante de la signification et de la reconnaissance collective du trauma qui lui était indispensable pour vivre et qu'elle était prête à payer le coût de la maladie.